Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Dans le cadre du colloque André Chanson, troisième émission avec cette fois-ci Maxime Bergès, qui est docteur de Sorbonne Université et qui, dans sa thèse, s'est intéressé à l'humanisme d'André Chanson, au paradoxe de son engagement pacifiste dans les années 30 et la réception de son œuvre. Nous l'écoutons. Bonjour Maxime Bergès.
Bonjour.
Alors nous nous évadons quelques instants du colloque André Chanson. Toutes les interventions sont intéressantes. Vous apprenez encore des choses lors de ce colloque.
J'apprends énormément et surtout grâce au témoignage de la famille. Mmh. C'est incroyable d'avoir les descendants d'André Chanson qui nous apportent un côté, comme disait Catherine Vell, plus humain. L'homme derrière l'écrivain. Mmh. Et je pense que c'est très important. Il y a une phrase d'André Chanson qui m'a beaucoup marqué. Pendant la guerre, il écrit « L'écrivain se tait, l'homme écrit quand même ».
Oui.
Et cette dimension-là chez Chanson qui a toujours voulu être un homme derrière l'écrivain, malgré l'écrivain, on le retrouve dans ce colloque et je pense que c'est ce qui m'apprend le plus, mais en même temps ce qui me touche le plus aussi en écoutant les interventions.
Alors, vous avez soutenu une thèse en décembre 2024 intitulée « La volonté des tomes » pour une histoire du roman du nouveau mal du siècle à l'espèce humaine, 1924-1947. Vous parlez de 80 auteurs, mais en fait, il y en a 4 majeurs, et je dirais presque un majeur qui est André Malraux, et 3 qui gravitent autour de lui. 4 ans de travail, après des études donc à Bordeaux, et puis l'agrégation en 2018, c'est ça ?
C'est ça.
Donc vous n'avez pas chômé, hein, vous avez... Et puis entre-temps, 2 années, puisque quand on a l'agrégation, on est nommé, et vous avez fait 2 années d'enseignement, et après vous êtes consacré vraiment à la thèse.
Oui, ça me semblait important de se reposer après l'agrégation. Ah bon ? Ça peut paraître bizarre de dire qu'on se repose quand on enseigne, mais j'ai beaucoup dormi après l'agrégation. Et il m'a fallu un temps de réflexion et de maturation pour savoir dans quelle direction je voulais aller. Et j'avais déjà fait un mémoire sur les années 30, 40, 50. Et en fait, je pense que j'ai commencé à lire avec Céline, Voyage au bout de la nuit, que ma prof de première m'avait donné. Et depuis, j'ai jamais arrêté de lire cette période. Je ne lis que cette période.
80 auteurs et plus.
80 auteurs et plus, parce que du coup, puisque je ne lis que ça, à un moment donné, il faut quand même que voilà, je diversifie mes lectures.
Et vous voilà. Avez été conseillé, je pense, par un directeur de thèse, tout de même.
Oui, en fait, c'est ça.
Trouver,
c'est que
faut trouver l'idée directrice.
Pendant ces 2 ans, j'ai enseigné, mais j'ai surtout réfléchi à un projet et cherché un directeur qui pouvait m'accompagner dans ce projet. Et la rencontre avec Jean-Louis Janel a été déterminante. C'est une enseignante de Bordeaux que j'avais eue à la fac qui me l'a conseillé, qui m'a donné son nom et ensuite qui m'a introduit auprès de lui. Et en fait, avant de commencer véritablement le travail de thèse, il y a eu 1 an de discussion avec Jean-Louis Janel
pour
délimiter, étendre, circonscrire selon les périodes le sujet et essayer de trouver un axe problématique qui fonctionne, qui soit réalisable.
Bien sûr. Vous ne connaissiez pas spécialement André Chanson ?
Je ne le connaissais pas du tout.
Du tout ?
Du tout. Mmh. Je ne connaissais pas du tout André Chanson. Je l'ai découvert par hasard. Mmh. Pendant la première année de thèse, on lit beaucoup. Mmh. On se sent un peu perdu au milieu de toutes nos lectures. Mmh. Et dans les histoires littéraires, dans les histoires des idées, je croisais beaucoup le nom d'André Chanson, puisqu'il a été ami avec tout le monde à l'époque. Mmh. Et Malraux était déjà au centre de ma thèse. Comme Chanson fréquentait beaucoup Malraux, vraiment son nom réapparaissait à chacune de mes lectures.
Regarde Alsace-Lorraine, hein. C'est tous les deux.
Voilà. Et j'ai fini un jour par me dire, mais qui est ce bonhomme dont le nom apparaît tout le temps, mais que je n'ai jamais lu et dont je ne vois aucun livre en librairie, par exemple.
Oui, il avait été assez oublié. Ça explique le colloque, aussi l'exposition. Il a été assez oublié ou classé auteur régional.
Je pense que c'est ce qui le dessert aujourd'hui, effectivement. Ouais. Le fait qu'il soit très ancré dans le territoire Nîmois, Cévenol, fait qu'on a sa mémoire ici. Mmh. Mais ce qui l'empêche en même temps d'atteindre une renommée ou d'être amené à rentrer dans le canon national.
Un écrivain à la hauteur de... Parce qu'on a fait des parallèles avec Camus, avec Malraux. En fait, on ne le met jamais au même niveau que...
Mais lui-même ne s'y mettait pas au même niveau. Ouais. Il était extrêmement modeste. Mmh. Donc, devenir ce qu'on est, il se place sous l'autorité de Giono, de Malraux et de Saint-Exupéry.
D'accord.
Et... se disait qu'il était un écrivain secondaire derrière eux. Et je suis pas tellement d'accord, parce qu'en fait, si on lit bien l'œuvre d'André Chanson, ou même si on la lit tout simplement, on se rend compte que chez André Chanson, il y a un peu de Saint-Ex, il y a un peu de Malraux, il y a un peu de Giono. Mmh. Et je pense que c'est ce qu'il dessert aussi, c'est qu'en fait, Chanson est une œuvre très diverse, très protéiforme.
Il s'intéresse à tout.
Il s'intéresse à tout, il écrit surtout, il est très réactif à ce qui se passe dans l'histoire. Et à la fin, ça brouille un peu les pistes. Il n'est pas aussi identifiable que Giono avec Manosque, que Malraux, le révolté, le résistant, le révolutionnaire, ou que Saint-Ex, l'aventurier. Chanson, en fait, on a du mal à cerner qui c'est finalement.
Donc, vous partez de Malraux, enfin disons que c'est le point de départ. Chanson se définit assez vite pour tourner autour, je dirais. Étant radical modéré. Ensuite, Nizan pour le Parti communiste, que vous connaissiez.
Nizan que je connaissais beaucoup plus que Chanson.
Et puis Drieu de La Rochelle pour en fait montrer de l'extrême gauche, à l'époque, la gauche, à la droite, hein, Drieu de La Rochelle. Assez sulfureux sous l'occupation.
Oui, en fait, donc ma thèse, l'enjeu, c'était d'écrire une histoire du roman en fonction des débats qui se sont tenus à l'époque sur la notion d'homme.
D'accord.
Dans tous les sens du terme, humain, masculin, ouvrier, individu, vraiment, le mot à l'époque était utilisé par tout le monde sans être défini véritablement.
D'accord. Et je répète le nom de votre thèse, hein, parce qu'on comprend mieux. Hein, la volonté d'être homme pour une histoire du roman du nouveau mâle du siècle à l'espèce humaine, 1924-1947.
C'est ça, donc en fait j'avais identifié une tension vers l'homme. C'est Thierry Monnier, qui était aussi d'extrême droite, qui le dit en 1932 dans La crise est dans l'homme, un essai. Il cite plein d'auteurs en disant « L'homme dit Bernanos, l'homme dit Malraux, l'homme dit un tel. » Et il conclut en disant « L'homme, mais encore, et où le trouve-t-on ? » Et en fait, ma thèse vise à répondre à ça. Qui est cet homme dont tout le monde parle ? Pourquoi tout le monde veut le devenir ? Et qu'est-ce qu'ils veulent devenir quand ils prétendent devenir un homme, finalement ?
Dans des années historiques difficiles. Hein.
Troublées.
1924, c'est l'après-guerre. Moi, je dirais que c'est tout de même aussi les difficultés de la République de Weimar, hein, puisqu'on est après la Première Guerre mondiale. L'ascension des dictatures, hein, Mussolini, Hitler, le Front populaire, la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes un peu historien, ou est-ce que quand on fait une agrégation et une thèse de lettres modernes, on est obligé d'être un peu historien ?
À vrai dire, on me reprochait de ne pas être assez littéraire. et dans mon introduction de thèse, je me revendique effectivement historien de la littérature et pas du tout poéticien, par exemple. Il y a vraiment une dimension historique très forte, d'histoire des idées, d'histoire tout court, parce qu'effectivement, quand on travaille sur cette période, on ne peut pas ignorer l'histoire. C'est impossible.
Mais... est-ce que le plan de votre thèse s'est mis en place assez rapidement ? Je ne l'ai pas lu, 400 pages. Je ne vous connaissais pas avant le colloque. Et merci à ce colloque, justement. Il y a des intervenants absolument très différents, mais qui donnent des axes importants. Et puis de voir qu'un jeune homme s'intéresse à André Chanson. Vous avez été invité au colloque. En fait, il était déjà... prêt, l'exposition était déjà prête. Vous n'avez pas participé en fait à la conception de l'exposition du colloque.
Pas du tout.
Vous êtes un invité.
Je suis arrivé sur le tard.
Oui, mais c'est très très bien, c'est agréable, et puis ça peut donner justement une idée à des étudiants en littérature, hein, puisque André Chanson, on peut...
C'est le but. C'est-à-dire que moi, André Chanson, je ne le connaissais pas du tout, mais quand je l'ai découvert, ça a été une révélation. Il m'a permis de régler un milliard de problèmes dans la thèse, et notamment le problème de la chronologie, qui est très importante en histoire, et donc en histoire littéraire. Et en fait, André Chanson, avec son roman L'année des vaincus, qu'il fait paraître en 1934, m'a offert une clé pour tout résoudre. Il était né en 1900. Et en fait, jusqu'en 1934, André Chanson a écrit des œuvres sur des œuvres régionalistes, pacifistes. Et en 1934, devant l'ascension du parti nazi, la nomination de Hitler, les manifestations anti-républicaines en France, il a complètement réorienté son œuvre. Radicalement.
Vraiment, la notion vraiment d'engagement, puis c'est là où il crée le journal Vendredi. Mm. D'ailleurs, il veut porter une parole.
Il veut porter une parole, il veut s'engager, il veut être utile. Oui. Vendredi, il le crée justement parce qu'il voit bien que les journaux d'extrême droite tirent à des centaines de milliers d'exemplaires, alors qu'à l'époque, le journal de gauche, le plus populaire, tire à seulement 60 000 exemplaires.
D'accord.
Et donc, il veut être efficace, véritablement. C'est pour ça que c'est terrible, parce que l'année des vaincus marque une forme d'engagement dans sa fiction, mais en fait, après l'année des vaincus, il arrête tout simplement d'écrire de la fiction pendant un temps pour se consacrer à Vendredi.
Alors, je fais un parallèle, puisque vous avez dû le voir, le film des rayons, les lumières et les ombres,
et de Gianoli,
et qui justement parle d'un journal de nazis, enfin de collaboration, financé par les Allemands, et on voit justement... On ne peut pas faire abstraction de l'histoire dans la presse, dans l'engagement.
Non, et encore moins qu'en fait, beaucoup d'auteurs de l'époque écrivaient aussi dans la presse, en tant que critique, en tant que journaliste, que reporter. Être écrivain dans les années 30 devient véritablement un métier. Et du coup, ça implique que les engagements dans les œuvres de fiction se retrouvent dans les journaux, inversement. Que les œuvres sont débattues dans les journaux en tant que telles. Enfin, par exemple, ça m'avait beaucoup frappé, moi, de voir que la mort de la pensée bourgeoise d'Emmanuel Berne était dédicacée à un personnage d'André Malraux.
Ouais.
Vous voyez, il y a une confusion totale entre la fiction et la réalité.
Oui, on en parlait aussi dans le colloque. Est-ce que c'est André Chanson qui parle ou est-ce que c'est un personnage de fiction ?
Exactement.
Et parfois, on ne sait absolument pas.
La frontière devient mince.
Alors, je mettrai la musique. J'essaie de le lire à l'envers. De la main gauche, très pratique. 11-26. Prendre ma main droite parce que sinon je n'arriverai pas à me relire. Je suis obligée de mettre sur Radio Alliance Plus. Hein, c'est une petite obligation. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons donc Maxime Bergès pour nous parler donc de sa thèse. Encore bravo, félicitations.
Merci.
Vous ne regrettez pas?
Non, au contraire. Et surtout. J'ai hâte de la publier, puisque c'est en cours, et j'ai hâte de poursuivre mes recherches, de faire autre chose, d'aller plus loin.
Donc l'enseignement, c'est fini pour vous ?
C'est pas fini du tout, j'enseigne encore, et figurez-vous même que j'enseigne avec militantisme en quelque sorte, puisque tous les auteurs modestes, mais intéressants, que j'ai découvert pendant la thèse, j'essaye de les transmettre, de les valoriser auprès de mes élèves. Et par exemple, cette année, pour mes premières, je leur ai mis un extrait de l'année des vaincus, justement, d'André Chanson, pour le bac, pour l'oral du bac, en leur expliquant, en introduisant cette figure, du coup, auprès de la jeunesse.
Entre l'enseignement et la recherche, qu'est-ce que vous préférez ? Ou les deux sont...
C'est complémentaire.
C'est complémentaire.
C'est-à-dire que pendant le contrat doctoral, on a très peu d'enseignement, et parfois on a tout un semestre sans enseigner. Mmh. Et autant à la fin d'un semestre, avec enseignement, on est fatigué et on se dit « Ah, heureusement que ça finit
oui, »,
mais à la fin d'un
nerveuse,
semestre, exactement, la fatigue,
gérer
différents types d'activités. Mais à la fin d'un semestre sans enseignement, on n'en peut plus de notre recherche et on a envie justement de retrouver les élèves ou les étudiants aussi pour partager notre passion.
Vous arrivez à concilier les deux, ça vous semble nécessaire aussi?
Je dis souvent que... pendant les périodes scolaires, j'enseigne, et pendant les vacances, je cherche.
Et là, vous enseignez où ?
J'enseigne dans le 94, à côté de Paris.
Thank you. disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mercel Kébir.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous reprenons notre réflexion sur André Chanson avec Maxime Bergès. Merci encore. Vous êtes venu à Nîmes, donc c'est votre découverte de Nîmes, pour ce colloque. Et alors, histoire extraordinaire, il y a une alerte, nous sommes obligés de sortir. Et si on entend des bruits de voiture, c'est que nous sommes à l'extérieur du carré. Alors, plus sérieusement, vous avez dit que l'auteur, en fait, qui était un peu le point d'ancrage, c'est Malraux. Alors, Malraux, qu'est-ce que vous avez à en dire de particulier sur le sujet de votre thèse, hein, c'est-à-dire l'homme?
Compliqué. Très compliqué. Non, Malraux, c'est une figure complexe, très difficile à cerner. Je trouve même très difficile à comprendre et à lire aujourd'hui. Je dis souvent, en plaisantant un peu en colloque, pour repopulariser les années 30 dans la recherche en général et auprès des jeunes, il faudrait lire un peu moins Malraux et un peu plus Jean Prévost ou André Chanson, qui, je pense, soulèvent des questions beaucoup plus actuelles pour nous. D'accord. Que Malraux.
Oui,
Malraux me semble un peu daté, finalement.
De chansons, ouais.
Malraux me semble un peu daté et en même temps, un peu daté en termes d'écriture ou sa morale très nietzschéenne qui ne nous parle plus vraiment aujourd'hui. Mais en même temps, à l'époque, c'est une figure incontournable. Il est ami avec tout le monde le prend en exemple, le cite, dialogue avec lui. Ses œuvres sont des références absolues. Pour moi, c'était impossible d'écrire une thèse sur la notion d'homme sans parler de Malraux, sachant que c'est le problème qu'il a occupé toute sa vie.
Alors, quel est le ou les livres que vous conseillez à des jeunes, hein, puisque cette émission, c'est pour essayer que des jeunes aillent vers de la littérature. Donc, quel est le livre de Malraux que vous conseilleriez?
Le plus accessible reste La condition humaine.
La condition humaine.
Le plus intéressant pour les lecteurs aguerris, ce serait La voie royale, oui, de 1931. C'est dans La voie royale que Malraux développe peut-être le plus profondément sa philosophie, sa pensée de l'homme et aussi des cultures. Malraux s'est beaucoup intéressé aux civilisations, à la manière dont les civilisations se construisent, dont elles saisissent certains objets et dialoguent entre elles. Et dans La voie royale, qui est rude à lire, avec beaucoup d'ellipses, très cinématographique, c'est là où il va le plus loin, je trouve.
Est-ce que ça vous a étonné qu'André Chanson soit ami avec Malraux? Qu'est-ce qui a pu attirer deux hommes aussi différents?
Ce sont des questions vertigineuses.
Non, parce qu'André Chanson, on est dans un colloque sur André Chanson, donc on commence à bien connaître sa vie. On montre un peu austère, et justement sa petite fille Catherine Vell montre que pas du tout, c'était un homme qui, au-delà de l'engagement, était un homme avec des valeurs très très morales, mais qu'il mettait dans sa vie personnelle, alors que Malraux, on connaît sa vie un peu les statues d'Angkor, tout ça, c'est peut-être pas un homme très recommandable.
C'est vrai, mais en fait à l'époque beaucoup d'auteurs sont amis en étant pourtant très différents.
Mais c'est bien.
On raconte beaucoup que Drieu La Rochelle fréquentait Marguerite Duras.
Ouais.
Aujourd'hui, ça peut nous sembler improbable.
Ouais.
Mais en fait, il faut quand même se rappeler que c'est une jeunesse qui a été unanimement marquée par la guerre. Et cette expérience-là d'avoir grandi pendant des affrontements avec des privations, etc., crée vraiment une génération soudée qui a le sentiment, qui a conscience d'appartenir à une génération.
Et pourtant, la France est victorieuse. Alors, c'est plutôt les traités de paix qui les choquent. C'est plutôt l'après-guerre qui les choque.
À vrai dire, la France est victorieuse, mais pour ces auteurs qui s'intéressent à l'homme, à l'humain, le monde ne l'est pas.
D'accord.
Et l'homme n'est pas victorieux.
Ouais.
En fait, pendant la Première Guerre mondiale, autant Malraux qu'André Chanson et que plein d'autres voient au-delà de la politique, voient au-delà de la nation.
Oui,
et
c'est
ce qu'ils voient plutôt, c'est que l'humanité a été humiliée pendant la Première Guerre mondiale par la machine, par les armes de destruction. On a inventé plein d'armes pendant la Première Guerre mondiale,
première
le lance-flammes, les tanks,
c'est
la Première Guerre industrielle. Et en fait, ce qu'ils retiennent et peut-être ce qui les unit le plus fortement, c'est ça. Et Malraux et Chanson ont été associés la première fois dans un recueil d'essais qui s'appelait sobrement Écrit. En 1927, André Chanson y publiait L'homme contre l'histoire et Malraux y publiait Une jeunesse européenne. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont présentés tous deux comme de jeunes philosophes qui sont destinés à occuper le paysage intellectuel des années à venir, ce qui a été le cas. Et en fait, ils défendent tous les deux des positions très différentes dans Une jeunesse européenne et dans L'homme contre l'histoire. Mais justement, c'est une époque où, malgré les divergences d'opinion, il y a quand même énormément de dialogue entre les auteurs, entre les différents camps politiques.
Ce qui n'est plus actuellement, où vraiment les écrivains sont catégorisés et il y a une sorte, je dirais, de course à l'insulte, au dénigrement.
Avec une forte polarisation. Où il y a plus, à l'époque, on s'engueule. Clairement, les articles sont virulents.
Ouais.
On ne se prive pas pour calomnier les uns et les autres. Mais il y a quand même une honnêteté intellectuelle. L'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est par exemple Drieux, qui se convertit au fascisme en 1934 après les émeutes anti-républicaines du 6 février. Il publie un essai que Nizan, qui est pourtant aux antipodes de Drieux en termes d'engagement, en termes d'idéologie, reconnaît comme étant la forme à donner à l'essai. Donc malgré ces différences, malgré ces dissensions, il arrive à reconnaître la qualité littéraire du livre de Drieux. Et ça montre, je pense, la grande intelligence des années 30, de tous ces auteurs.
Donc Nizan, on en parle un peu aussi. C'est parce que parmi tous ces auteurs, vous avez travaillé sur 80 auteurs, 4 en particulier. Là, vous êtes pour Chanson, que vous découvrez et que vous trouvez de plus en plus fascinant, de plus en plus intéressant.
Chanson,
oui.
C'est l'auteur sur lequel je me recentre le plus. C'est-à-dire que c'est devenu une forme d'étalon dans ma recherche. Il apparaît dans à peu près toutes mes communications, tous mes articles, même ponctuellement.
D'accord.
Parce que premièrement, parce qu'il a été très réactif aux événements historiques. Et deuxièmement, parce qu'il a beaucoup réfléchi à son écriture, à ce que c'est que le roman, au rapport entre le roman et l'histoire. Et c'est assez drôle, là j'ai un article sur Régis Messac, 15 Zinzili, qui devrait paraître dans le courant de l'année. C'est de la science-fiction. Qui a été écrite en 1935 où Régis Messac imagine une seconde guerre mondiale. Il imagine la vie du dernier homme. Et Chanson est apparu comme un point de référence nécessaire, en fait, parce que l'idée quand même centrale de Chanson, c'est qu'on ne tuera jamais le dernier homme, vous voyez. Et donc, même si c'était pas un article sur Chanson, un article sur l'humanisme en soi, Chanson reste quand même une référence pour penser d'autres formes de littérature et d'autres mises en œuvre de cette humanité parfois plus perdue, notamment quand on envisage la vie du dernier homme.
Et c'est pour ça qu'Edith Noblet a appelé cette exposition « Quel homme sommes-nous devenus ?» et puis « L'espérance malgré tout ». Et je sais qu'hier, j'écoutais du colloque, c'est quand même l'espérance qui reste, l'optimisme qui reste. Patrick Cabanel avait l'air de pas trop abonder dans ce sens, mais Micheline Cellier dit oui, ce qui reste en lui, c'est l'espérance. Et c'est vrai que la communication sur la jeunesse est excessivement intéressante, parce qu'on peut faire un parallèle entre la jeunesse de l'après-première guerre, la jeunesse de l'après-deuxième guerre mondiale, et puis la jeunesse actuelle. Et Chanson, on peut toujours l'utiliser.
Dans tous les cas.
Dans tous les cas.
Il est toujours là.
Oui, oui, mais...
Il a toujours quelque chose à dire d'intéressant dessus.
Oui, c'est parce qu'un homme né en 1900, mort en 1983, ça m'a beaucoup intéressé justement ce, comment utiliser la notion de jeunesse quand la personne a dit il y a quatre points. Alors de mémoire, il y a la foi en l'avenir, l'image. Alors à l'époque c'était le cinéma, maintenant c'est les réseaux sociaux. C'est tout de même intéressant de se dire il est toujours valable. Et ça, vous le découvrez ? Ou vous l'aviez senti dans ces...
En fait, moi, pour la thèse, je me suis arrêté au Puy des Miracles dans des chansons, donc en 46. Et c'est pour ce colloque, quand Eddie Noblet m'a invité en me précisant le titre, « Quels hommes sommes-nous devenus ?», que je me suis demandé, enfin que j'ai trouvé intéressant de poser la question, eh bien, effectivement, quels hommes sommes-nous devenus et donc qu'est-ce qu'on est... qu'écrit-on après la guerre ? Et j'avais pas lu encore La Neige et la Fleur, je l'ai lu pour le colloque, je l'ai étudié pour le colloque.
Oui, vous en avez beaucoup parlé, je l'ai pas lu moi, et ça m'a donné vraiment envie de le lire.
Nicolas Velle, le descendant d'André Chanson, ne l'a pas lu non plus.
Ah bon, ben il m'a dit j'en avais jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est un. Ça sera peut-être un sujet d'une autre communication, peut-être d'une autre thèse, je ne sais pas. Quel est
c'est en le lisant. Moi, je trouve que c'est un livre qui est assez daté parce qu'il parle de problèmes qui ont touché la jeunesse de l'époque, à l'époque, avec beaucoup de questions sociétales. Et certaines peuvent nous paraître aujourd'hui dépassées parce qu'en fait, c'est des questions qui ont été résolues, dont on ne parle plus aujourd'hui. En revanche, il y a aussi, on y trouve aussi beaucoup de réflexions qui sont toujours valables pour le coup, sur la liberté, sur ce qu'on promet à la jeunesse ou sur comment, par exemple, se transmettent les traumatismes, comment on les règle, comment on ne les transmet pas.
Ouais.
Et toutes ces réflexions me semblent encore très pertinentes, très vraies, parce que c'est ce qui ressort finalement de ce livre, c'est que c'est un roman sur la jeunesse des années 50, mais qui a vocation, en fait, à porter un propos sur la jeunesse en général, sur la jeunesse comme force d'espérance, justement.
Oui, c'est votre communication hier qui m'a vraiment intéressée, parce que ça pose vraiment des questions actuelles, et je m'étais dit si j'ai la possibilité de vous interviewer, j'accentuerai sur cette permanence, en fait, des questions de la jeunesse. Alors, merci à vous, Maxime. Vous m'avez dit au début que vous avez travaillé sur 80 auteurs. Là, on en a cité 4 et quelques-uns d'autres. Allez, un petit pot pourri des auteurs qu'il faut lire.
Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature, dit que Chanson est mort avec Jean Prévost.
Ouais.
Je lui en veux beaucoup d'avoir dit ça. Et en même temps, il n'empêche que Sartre les cite. Et je pense que les citer, même si c'est pour en dire du mal, c'est une reconnaissance. Et aujourd'hui, du côté des hommes, ce seraient les deux auteurs que j'aurais envie de défendre avec le plus de verve, Jean Prévost et André Chanson, qui ont vraiment des valeurs qui me semblent essentielles pour nos jours. L'amitié, l'espérance, la foi en une humanité, en la capacité de l'homme d'être résilient et de toujours avancer malgré les épreuves. Et du côté des femmes, il y en a deux que je défends bec et ongle, colloque après colloque. Ce sont Edith Thomas, qui a elle-même été résistante, archiviste, qui a beaucoup de points communs avec André Chanson, qui a notamment développé dans les années 40 le concept d'humanisme féminin. Et Marguerite Grépon, que tout le monde connaît maintenant autour de moi, mais dont personne n'a jamais entendu le nom avant de me rencontrer en général.
Ça, oui, c'est vrai.
Qui a été romancière, conférencière, diariste, et qui a notamment créé dans les années 50 un prix du journal intime, qui était, pareil, une femme sans concession, qui a toujours vécu pour ses engagements. Dans la pauvreté peut-être, mais avec beaucoup, beaucoup de force.
Et merci beaucoup, Maxime, de nous apprendre plein de choses et puis de nous donner des pistes de lecture. Parce que la lecture, vous l'avez dit au début, vous lisez beaucoup. Là, ça va être la vacance scolaire, donc vous allez pouvoir retravailler à vos recherches. Mais bravo à vous pour cette belle complémentarité entre l'enseignement, la recherche, la lecture. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Avec les gens.